5h55, la matinale d'Europe 1 se poursuit avec Julien Pierce et Mathieu Béliard.
Bonjour Mathieu, rebonjour.
C'est bon, j'ai le droit là ?
Ouais,
bonjour Julien,
bon.
Bonjour Ambline.
Bonjour à tous.
Attendez, juste avant que de vous donner la main, j'aimerais remercier tous ceux qu'on n'entend jamais au micro, mais qui n'en sont pas moins indispensables à cette antenne. Nos réalisateurs et techniciens Nicolas Baudin et Rémi Duprat, merci pour votre patience et vos montages ciselés. La saison se termine, mais j'ai toujours espoir, Nico, de te voir porter autre chose que du noir. Quant à toi Rémi, tu as presque réussi à me convertir aux fruits de mer. Encore un petit effort et on dégustera des huîtres ensemble. Merci également à Manu Calma, qui m'a trouvé tous ses invités et convaincu nombre d'entre eux de se lever aux aurores pour être en direct. Merci aussi aux doigts dans l'assiette, ces agriculteurs, ces artisans, ces commerçants qui ont accepté chaque matin de nous faire entrer dans leur quotidien. Enfin, merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre écoute, votre bienveillance. J'ai été très fier cette saison de vous accompagner des potrons minés. Voilà, c'est à vous Mathieu Béliard.
C'est bon ?
C'est bon.
Il y a un mensonge hein, dans tout ça.
Ah bon ?
Non.
Vous mangez pas de fruits de mer ?
Non. Mais c'est notre drame avec Rémi.
Comment je découvre ça maintenant ?
C'est le seul truc qui retient. C'est incroyable.
C'est notre drame. Hein.
C'est
Vous mangez pas
c'est
de fruits de mer.
Non.
On a dévoilé plein de recettes. En plus, non, rien n'y fait.
Non. Mais j'adore le poisson.
Quand même. Non, mais je réfléchis à comment on peut vous convertir. On va y travailler, mais je savais pas qu'il y avait ce chantier là, Rémi, moi. Mais on va s'occuper de ça. Merci Julien.
Allez, bonne
Merci
matinale.
D'avoir réveillé nos auditeurs depuis tôt ce matin et depuis le mois d'août. Je peux vous dire qu'il y a un paquet de gens qui seraient en retard au boulot s'il n'y avait pas Julien Pierce le matin. Merci Julien, il est 5h57 et vous êtes sur Europe 1. Oui, il y a un petit parfum de vacances, on va en reparler. Même s'il y a des choses moins ragoûtantes avant de parler des vacances. Vous êtes sur Europe 1, c'est parti pour 3 heures d'info, 3 heures de direct. Ensemble, on écoute le monde changer. Je vais être clair avec vous, il y a des plans sociaux et il y en aura. Je vous l'avais dit que c'était moins sympa. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron dans la presse régionale aujourd'hui. Le président de la République qui avertit sur le contexte économique de la rentrée. Ce sera dur, dit-il. Le président qui esquisse aussi le plan qu'il se donne pour les deux ans à venir. Reconstruction économique, sociale, environnementale, culturelle. Un nouveau chemin, redit-il. On va longuement détailler cette interview aujourd'hui dans la matinale d'Europe 1. Il n'y aura pas d'abandon de la réforme des retraites. Oui, vous avez bien entendu. Je suis ouvert à ce qu'elle soit transformée. Élément majeur de cette interview, très clairement. Voilà qui donne le ton. Il faut rouvrir la négociation avec les partenaires sociaux, quitte à ce que l'âge pivot soit oublié. À 7h, Nicolas Barré sur cette grande concertation qui doit être relancée cet été. 7h40, un des acteurs de la discussion, Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Et puis enfin, 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Christian Jacob, le patron des Républicains. À 6h40, la police. La préfecture de police de Paris confirme la dissolution de la CSI 93, la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis. Compagnie au cœur d'un scandale judiciaire dont nous vous avons parlé. 4 policiers mis en examen pour faux et usage de faux en écriture publique. Arrestation arbitraire, violence volontaire pour l'un d'entre eux même. Une décision prise dans la précipitation. C'est ce que dira Grégory Joron du syndicat Unité SGP Police FO. Fallait-il dissoudre cette compagnie entièrement ? On va en reparler à 6h40. Et puis enfin, ce petit parfum de vacances que je vous ai promis, c'est le jour J. Pour les enfants, en tout cas, c'est les grandes vacances, même si certains ne sont revenus que depuis 2 semaines hein, à l'école. Le tourisme dans nos journaux, bien sûr, nous vous emmenons à la montagne, à la plage, à la campagne, mais aussi une question plus scolaire, celle des devoirs de vacances. Comment rattraper les retards provoqués par le Covid ? À 8h30, nous serons en direct avec Philippe Mérieux, chercheur en pédagogie, spécialiste de l'éducation. Sur le hashtag Europe 1, j'attends vos messages, vos témoignages, vos questions peut-être pour Philippe Mérieux. Qu'avez-vous prévu pour vos petits écoliers, collégiens ? N'hésitez pas. Le hashtag Europe 1. À 5h59, Laurent Cabrol est avec nous, bien sûr. C'est l'heure de la météo, mon cher Laurent. Bonjour.
T'attends à manger des fruits de mer, ça ?
Ah, je peux pas croire que Julien
passe. Non, mais c'est terrible.
Un fin gourmet comme lui, tous les matins, les doigts dans l'assiette avec les pêcheurs et tout. Mm-hmm.
Pourtant, je croyais qu'il aimait les huîtres parce qu'il nous fait tourner en bourriche.
On est parti sur des chapeaux de roue.
Ça y est, on est parti sur le facile. Bon, mes amis, bah écoutez, bonjour à vous, mon cher Mathieu, et rebonjour à tous nos amis. Oui, vous allez vivre une journée, d'alternance nuages éclaircies avec une prédominance d'éclaircies car le temps sera plutôt agréable en dépit des nombreux nuages. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure il pleut un petit peu du côté de Perpignan. C'est pas méchant, ça vient d'Espagne avec sa petite valise en carton. Les orages sont arrivés, mais ils vont pas plus loin. Hein. Donc de sorte que vous aurez dans l'ensemble une journée qui se dirige directement vers une transition ensoleillée puisque demain ce sera bien meilleur et surtout bien meilleur dans le sud, hein, comme dimanche. Et surtout la semaine prochaine s'annonce comme une semaine vraiment idyllique avec du soleil toute la journée partout en France. Une semaine géniale pour ceux qui sont en vacances, voilà.
Merci beaucoup mon cher Laurent. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer.
Europe 1, il est 6h.
la mairie nous a dit que c'était à nous de faire respecter toutes ces normes de sécurité. On va faire la police. On rigole pas parce que sinon ils peuvent nous faire fermer.
Des tentes de plage en moins et des transats un peu moins disponibles. Les quelques mesures de précaution qui vont un peu changer vos séjours à la plage ou en bord de mer cet été. Mais flâner sur le sable s'annonce beaucoup moins contraignant que redouté. La rentrée sera difficile, il faut s'y préparer. Les mots d'Emmanuel Macron ce matin dans la presse régionale. Le président qui érige en priorité le Ségur de la santé pour des hausses de salaire des soignants. Les négociations coincent avec les syndicats sur les sommes engagées.
Si M. Véran arrive avec un chiffre qui est nettement insuffisant par rapport à ce qui a été posé sur la table, il est bien évident qu'il ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un accord immédiat. C'est pas possible.
Dans ce journal, faut-il allonger la durée des congés de naissance en France? Une majorité de parents y semble favorable. Quel micmac à Marseille? Qui sera promu maire demain? Impossible de le dire ce matin. C'est maintenant la droite qui se déchire après le retrait de Martine Vassal et certains Marseillais fulminent.
Donc ça continue à être la zizanie, les magouilles qu'il y a eu, ça continue. Il faut tourner la page.
Et puis Roland Garros, l'automne prochain, ce sera bien en public, mais avec une jauge réduite.
Juste après ce journal, un bar à boules qui vient de voir le jour à Nice. Jouer aux boules en intérieur avec vos amis, c'est possible. Mon invité inattendu à 6h20. 6h25, le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec Paul Lassène. Et c'est ces stéréotypes sexistes qui agacent les internautes. C'est un euphémisme. Très bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Bélière, Jérôme Lacroix.
Vacances scolaires, c'est ce soir et peut-être pour certains d'entre vous un séjour à la plage que vous imaginiez peut-être il y a quelques semaines empreint de contraintes liées au contexte sanitaire. Interdiction de poser sa serviette ou réservation d'un créneau horaire, ce sera sans doute beaucoup moins contraignant, mais...
Mais votre séjour sera tout de même différent en raison de strictes mesures de précaution. Illustration ce matin au Sable d'Olonne en Vendée. Écoutez bien, 45 000 habitants à l'année, 145 000 en période estivale. Le virus n'y est pas très actif et les autorités mettent tout en œuvre pour qu'il ne se propage pas avec ce grand brassage de population.
C'est un reportage du correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest, François Coulon.
Il n'y a pas spécialement de masques, c'est comme si de rien n'était. J'ai l'impression que c'est vraiment derrière nous.
Un été en apparence comme les autres, Sable d'Olonne, et pourtant tout a changé. Bars et restaurants ont gagné du terrain sur les trottoirs et sur le sable pour cause de distanciation sociale. En revanche, 4 fois moins de tentes de plage que d'habitude et 2 clubs Mickey mis en sommeil. Contraintes sanitaires trop lourdes. Olivia, elle, va louer et désinfecter chaque jour 40 transats au lieu de 50.
Avant, les gens, s'ils voulaient se mettre sur le transat du voisin, il n'y avait pas de souci. Là, cette année, c'est interdit. La mairie nous a dit que c'était à nous de faire respecter toutes ces normes de sécurité. On va faire la police. On rigole pas parce que sinon, ils peuvent nous faire fermer.
C'est surtout le soir que l'effet Covid se fait cruellement sentir. Plus de musique ni d'animation sur le remblai. Éric Le Floc, directeur des services de la mairie.
Vous ne pouvez pas avoir un rassemblement de plus de 10 personnes. C'est le regroupement qui est aujourd'hui interdit. Et c'est ça qui est très difficile pour nous. Nous, on aime faire la fête et on en est privé.
Le feu d'artifice du 14 juillet devrait lui aussi passer à la trappe. Les Sables d'Olonne, François Coulon, Europe.
Et pour les vacances, vous étiez nombreux à avoir réservé des voyages, tout compris, qui ont été annulés en raison de la pandémie. Et sans doute, vous êtes nombreux à avoir du mal à vous faire rembourser. On vous a sans doute plutôt proposé un avoir.
Et c'est notamment parce que les autorités françaises, pour l'heure, n'obligent pas les voyagistes à vous rembourser pour ne pas accabler un secteur du tourisme très touché. Voilà qui n'est pas du goût de l'Union européenne, qui vient d'ouvrir une procédure d'infraction contre 9 pays, dont la France, Isabelle Horry.
Et oui, la France se fait épingler parce que depuis fin mars, elle autorise les voyagistes à ne pas rembourser tout de suite ces voyages, tout compris quand ils sont annulés. À la place, les consommateurs peuvent se voir imposer un bon d'achat. Or ça, dit Bruxelles, c'est contraire au droit européen. La France doit respecter la loi européenne sur les voyages à forfait. Elle prévoit expressément que les touristes ont droit à un remboursement intégral et immédiat. Même si c'est seulement l'avion qui est annulé, le voyagiste doit rembourser aussi l'hôtel. Le gouvernement a suspendu l'application de ce texte jusqu'à septembre. Il explique qu'il s'agit de préserver de la faillite de nombreux professionnels du tourisme. Mais les plaintes affluent dans les associations de consommateurs. L'UFC Que Choisir se réjouit d'ailleurs de l'ouverture de la procédure d'infraction contre la France. Ceci dit, attention, rien ne va changer dans l'immédiat. À ce stade, c'est un moyen de pression. On va voir comment le gouvernement réagit. À terme, il risque une plainte devant la Cour de justice européenne.
Et à propos du secteur aéronautique, la direction d'Air France doit officialiser ce matin la suppression de 7500 postes d'ici 2 ans. Départ non remplacé et volontaire pour l'essentiel, même si des licenciements secs sont possibles, notamment dans le court courrier.
La sortie de l'état d'urgence sanitaire à partir du 11 juillet, adoptée hier soir par le Parlement, avec toutefois d'éventuelles restrictions encore possibles jusqu'à l'automne prochain sur nos déplacements ou les rassemblements. Certains groupes d'opposition dénoncent ainsi une fausse sortie de l'état d'urgence.
Guyane et Mayotte ne sont pas concernés. L'état d'urgence y reste en vigueur jusqu'au 30 octobre en raison d'une circulation encore trop importante du virus. La rentrée sera très dure, il faut nous y préparer. Les mots d'Emmanuel Macron ce matin, entretien à plusieurs titres de la presse quotidienne régionale.
Le président sans concession sur les conséquences économiques de la crise du Covid, il y a des plans sociaux et il y en aura encore, prévient le président.
Et de poursuivre sur l'un des prochains chantiers, le Ségur de la santé pour améliorer la situation des soignants et médecins, notamment des hausses de rémunération. Nous les augmenterons de plusieurs centaines d'euros à coup sûr, déclare ce matin le président.
Mais en réalité, ce n'est pas si simple. La consultation, entamée il y a plusieurs semaines, devait s'achever aujourd'hui. Les discussions doivent en fait continuer parce qu'elles n'ont pas porté leurs fruits.
6,4 milliards d'euros sont proposés par le ministre de la Santé pour notamment des augmentations de salaire. Insuffisant, tonne Patrick Bourdillon de la CGT Santé. Il est présent à la table des négociations.
Si M. Véran arrive avec un chiffre qui est nettement insuffisant par rapport à ce qui a été posé sur la table, il est bien évident qu'il ne peut pas s'attendre à ce qu'un accord immédiat. C'est pas possible. 6 milliards, en tout cas, ça correspond pas à la revalorisation salariale que nous attendons pour les professionnels. Et les 300 euros par mois net que nous, organisations syndicales, réclamons. Je pense que nous avons un gouvernement qui est capable de mettre des milliards dans certaines parties de l'industrie. Je pense notamment dans l'aéronautique ou dans l'automobile, parce qu'à un moment, il faut sauver ces secteurs et c'est louable. Mais on peut pas derrière dire on met 15 milliards dans l'aéronautique et on met 6 milliards sur l'hôpital. Et dire que c'est quelque chose qui est extrêmement fort et qui n'a jamais été fait depuis longtemps. Oui, 6 fois plus que rien, ça fait pas grand-chose. Nous avons peur que la montagne accouche une souris.
Patrick Bourdillon, secrétaire fédéral de la CGT Santé, joint pour Europe 1 par Romain Noquet. Toujours dans cet entretien à la presse régionale, Emmanuel Macron annonce la réouverture des négociations sur la réforme des retraites dès l'été prochain, c'est ce qu'il souhaite. La réforme des retraites, c'est l'établissement d'un système par points. C'est nouveau, il se dit favorable à l'allongement de la durée de cotisation, mais il y semble moins tenir au maintien de l'âge pivot à 64 ans.
Emmanuel Macron confirme par ailleurs un remaniement gouvernemental imminent, mais reste évasif quant à l'avenir d'Edouard Philippe, au poste de Premier ministre.
Europe 1, il est 6h07.
Cette question dans l'actualité, la durée des congés parentaux en France est-elle suffisante? C'est l'une des questions posées à une commission d'experts qui a travaillé sur les 1000 premiers jours du nouveau-né du 4e mois de grossesse aux 2 ans de l'enfant.
La commission s'appuie sur la consultation de plus de 10 000 parents. Les résultats ont été présentés hier et l'allongement de la durée de congé des naissances est au centre des préoccupations, Marion Calais.
Plus de places en crèche, un meilleur accompagnement par les professionnels de santé, mais surtout une refonte des congés de naissance, congés parental, congés paternité ou maternité. Pour plus de 80% des parents ayant répondu à cette enquête, il faut les repenser en termes de rémunération et de durée. Adrien Taquet, secrétaire d'État en charge du dossier, en est bien conscient.
Les congés parentaux dans notre pays, c'est 3 ans, c'est mal rémunéré. C'est quasi exclusivement pris par des femmes, c'est de façon subie.
Laisser du temps aux parents, c'est aussi ce que demande la psychothérapeute Isabelle Filiosa, l'une des expertes de la commission des 1000 premiers jours.
Pour l'instant, les congés, ils s'arrêtent au moment où le bébé devient délicieux. Eh bien non, c'est très important que les parents puissent avoir du temps heureux avec les enfants et pas seulement le boulot difficile.
Des congés rallongés qui toutefois ont un coût 20 à 25 millions d'euros par journée supplémentaire selon le ministère des Solidarités.
Marion Calais. À suivre dans ce journal, le micmac des élections municipales à Marseille. La droite ne veut pas perdre la ville, mais se déchire. Suspense quant à l'élection du maire demain.
Et puis oui, il y aura du public à Roland-Garros l'automne prochain, mais sous condition. Mais d'abord...
D'abord, meublez-vous français avec des meubles fabriqués au cœur de nos régions. Des slogans déjà visibles dans certains de vos magasins de meubles, Conforama, But, Le Roi Merlin. Ils participent d'une grande campagne lancée par les industriels français du meuble. Le but, nous inciter à acheter plus de meubles fabriqués en France.
Bonjour Philippe Moreau.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Ameublement français, une organisation qui rassemble 350 entreprises françaises de fabrication de meubles. Vous avez signé hier à Bercy un accord avec les 20 principales enseignes de vente de meubles pour accroître les ventes du produit Made in France. Pourquoi est-il important cet accord? Quelle est la part aujourd'hui de meubles français vendus en France?
Alors cette part est aujourd'hui de 40% et notre objectif est de la remonter très rapidement à 50%. Avec cette campagne, nous voulons mettre en avant les meubles fabriqués en France à un moment où nos concitoyens, qui ont été confinés pendant 2 mois, comme nous tous, ont beaucoup envie d'améliorer leur aménagement intérieur et sont par ailleurs soucieux de la provenance des produits qu'ils achètent.
C'est cette période de confinement, Philippe Moreau, qui a provoqué une sorte de déclic?
Oui. D'abord, il y a ce besoin. Hein, comme chacun d'entre nous, les gens ont passé beaucoup de temps dans leur intérieur et et ont pris conscience de leurs besoins, de l'envie de d'améliorer leur confort, d'aménager mieux. Et par ailleurs, nous qui avions nos usines fermées, nous sommes posés la question de comment nous pouvions rebondir au mieux. Et nous représentons 40 000 salariés qui fabriquent un peu dans tous les territoires. Nous sommes une parfaite illustration de l'usine au cœur du village. Vous savez, ces entreprises ateliers qui contribuent à la vie économique et sociale des territoires. Et nous pensons que le moment est venu, parce que ça répond aux attentes des consommateurs, de déployer un plan de ce style qui répond aux attentes de nos concitoyens qui, vous savez, sont devenus un peu méfiants envers la mondialisation mal maîtrisée. Ils se mobilisent pour la sauvegarde de l'environnement, la défense des territoires et ont particulièrement envie de favoriser les circuits courts.
Merci Philippe Moreau. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Président.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée à vous. L'ameublement français, cet accord signé hier avec les grandes enseignes françaises pour promouvoir les ventes de meubles fabriqués en France. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1 ce matin.
Drôle de feuilleton à Marseille, celui des municipales. Qui sera élu maire demain? Impossible à dire ce matin. Martine Rubirola. On va vous poser la situation. Martine Rubirola, candidate de la gauche, n'a obtenu qu'une majorité relative au premier tour. Hier, sa rivale de droite, Martine Vassal, a jeté l'éponge.
Au profit du député Guy Tessier, un candidat a priori capable de réaliser l'union des droites, récupérant les voix de l'ancien candidat LR dissident Bruno Gilles. Sauf que, hier soir, un autre colistier républicain s'est déclaré candidat. La droite se déchire et nous, on a besoin d'y voir clair, Nathalie Chevance.
Divisé, éclaté, voilà que les républicains marseillais règlent leur compte. Guy Tessier, 75 ans, issu de la droite dure, accusé de nouer des contacts avec le Rassemblement national. Le RN qui propose désormais un grand rassemblement débarrassé, je cite, de tout esprit sectaire. C'en est trop pour Lionel Royer-Perrault, maire de secteur républicain largement réélu, qui lui aussi se pose en candidat.
Il y a des manœuvres qui ne vont pas dans le sens de mes convictions. La candidature de Guy Tessier pose un problème d'éthique, puisque nous savons les uns et les autres, la porosité et le lien ténu qu'il peut avoir avec le Front National. J'ai la connaissance de contact. Ça n'est pas possible pour moi de faire ce type d'alliance.
Et voilà pour l'instant deux candidats LR pour le fauteuil de maire et des électeurs pas convaincus du tout.
C'est une catastrophe.
À mon avis, ils ont perdu déjà. Eh ben, tout ça, c'est une guerre de pouvoir. Ils s'en foutent du parti.
Donc ça continue à être la zizanie, les magouilles qu'il y a eu, ça continue. Il faut tourner la page.
Et pour le moment, aucune majorité ne se dégage ni à droite ni à gauche. Le conseil municipal demain promet de nouvelles surprises. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
Plus de 53 000 nouvelles contaminations au coronavirus en seulement 24 heures, du jamais vu. Et c'est aux États-Unis où l'épidémie est plus que jamais galopante. Près de 3 millions de cas recensés au total. Inquiétude des autorités pour ces prochains jours, ces week-ends de fête nationale. Et c'est traditionnellement propre aux déplacements et retrouvailles en famille.
Donald Trump a prévu d'assister à un feu d'artifice au Mont Rushmore.
Et puis en Angleterre, réouverture demain des musées, cinémas, restaurants, mais aussi des pubs. Le Premier ministre Boris Johnson doit l'annoncer aujourd'hui tout en insistant sur le respect des mesures de prudence.
Il y aura bien du public à Roland-Garros. Début décalé fin septembre en raison de la pandémie bien sûr, mais il y aura moitié moins de spectateurs que d'habitude.
Les autorités ont donné leur feu vert aux organisateurs pour des conditions strictes d'accueil du public. Les détails avec Corinne Boulou.
Le nombre de spectateurs admis dans le stade sera de 50 à 60% de la jauge habituelle. Cette réduction donc permettra le respect strict des gestes barrières.
Ce qui veut dire environ 20 000 personnes par jour dans le stade et 10 000 le jour des finales. Sur les trois principaux courts, écart d'un siège en tribune entre chaque groupe d'acheteurs, composé au maximum de 4 personnes. Sur les courts annexes, un siège sur deux condamnés. Le port du masque sera réglementé, comme l'a précisé le président de la FFT. Bernard Giudicelli.
Il sera recommandé aux abords du stade ainsi qu'en situation statique sur les gradins. Par contre, il sera obligatoire pour le public sur les 13,5 hectares de Roland-Garros.
Et la billetterie au tarif inchangé sera ouverte aux licenciés jeudi prochain et le 16 juillet au grand public. En cas d'évolution sanitaire favorable, vente complémentaire possible début septembre. Dans le cas contraire, remboursement prévu. La perte de recettes pour le tournoi est déjà estimée à environ 56%.
Corinne Boulou. Merci beaucoup Jérôme Lacroix. Je vous rappelle qu'Europe 1, même décalé, hein, même avec Roland-Garros décalé, Europe 1 est partenaire de Roland-Garros bien sûr. Et nous allons appeler le président de la Fédération Française de Tennis dans le journal de 8h tout à l'heure. Merci Jérôme Lacroix. Il est 6h15.
Europe 1. La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard. Dans un instant, votre invité.
Et je vous ai promis ce matin, il y a des choses qui sont dures, hein, sur le climat social, sur la réforme des retraites qui va revenir. Il y a des choses qui ne sont pas forcément ragoûtantes ce matin comme ça à l'écoute. Mais je vous ai promis un parfum de vacances. Dans une minute, on joue aux boules.
Tous les matins, sujet de l'actualité, une voix que l'on n'attend pas pour en parler.
Quelle prouesse! comment c'est possible en deux secondes d'avoir tous les jingles d'Europe 1? Bravo Nico. Ouais. Merci. Parfum de vacances, je vous le disais ce matin, et avec le souci de relancer le secteur du tourisme, bar, restaurant, durement touché par la crise, direction Nice ce matin, dans un bar où l'on vous propose d'allier apéro et pétanque, le tout en intérieur. Jouer aux boules en sirotant votre verre de vin, c'est possible grâce à cette idée ingénieuse d'une société d'événementiel.
Et pour en parler, votre invité inattendu, Mathieu Béliard, c'est Guillaume Luthier, créateur du concept et directeur associé de la société d'événementiel Boule d'énergie.
Bonjour Guillaume Luthier.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être en direct avec nous ce matin. Je voulais qu'on vous passe un coup de fil aujourd'hui. Votre proposition est simple, installer des terrains de pétanque éphémères dans n'importe quel lieu.
Voilà, exactement. Le but, c'était de pouvoir jouer à la pétanque partout, tout le temps et par tous les temps. Donc, on a développé une activité événementielle de manière un peu instinctive au début. On n'avait pas vraiment fait de business plan pour tout ça. Il y a 5 ans, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et sauf que, ben, on le sait tous, il y a quelques mois, on a tous été confinés et le secteur de l'événementiel a été durement touché. Donc, comme si on arrête de courir, nous, on tombe, ça a ruminé, on a décidé d'en profiter pour réaliser un vieux rêve et d'ouvrir un bar et de rester sédentaire cette fois pour une activité que d'habitude on développe partout en France.
D'accord, l'idée est venue du confinement, c'est important, vous avez été obligé de vous réinventer dans votre métier. Alors à Nice, on le disait, il y a ce bar à boules éphémère qui vient d'ouvrir avec vous, donc expliquez-nous comment c'est accueilli.
Alors c'est assez formidable. Si ce n'est qu'on n'est pas du métier du tout. C'est-à-dire que vous retrouvez mon associé qui d'habitude fait des devis pour des événements partout en France qui est en cuisine. Mon autre associé qui est sur l'opérationnel a monté des gros projets pour 100, 200 personnes et des gros challenges qui se retrouvent au bar avec moi. Nos chefs de projet sont en salle. Donc on a monté un concept adapté sur nos problématiques et sur notre manque d'expérience. Donc du coup c'est les services au bar, c'est en mode guinguette, c'est très convivial. Et c'est vrai qu'on visait une cible, on va dire, de la quarantaine, un peu comme nous, qui était au rendez-vous. On voulait faire un lieu un petit peu sympa, convivial, trendy aussi. Mais on est accueilli, on reçoit plutôt toutes les clientèles. Donc en fait, c'est un vrai déjeuner du dimanche en famille. On se retrouve avec une petite table, avec 4 gentilles mamies qui vont se retourner sur la table de derrière en disant hey, « moins fort les jeunes !» et puis qui sont en train de jouer à la pétanque derrière. On a des patrons de restaurants ou d'hôtels qui viennent, qui s'arrêtent, qui repartent. C'est fantastique. Ça convient à toutes les générations, comme la pétanque finalement.
Et j'ai vu que vous avez des boules souples pour éviter de se blesser.
Voilà, exactement. Alors en fait, c'est des boules qui existaient avant nous. Nous, on a adapté, on les a utilisées, on a détourné leur utilisation pour les adapter à notre concept. C'est des boules souples qui font le même poids que des boules de pétanque, donc 680 grammes, et qui nous permettent de jouer en intérieur, aussi bien qu'en extérieur, en toute sécurité.
Je ne savais même pas que ça existait, moi, les boules souples, pour le coup. C'est assez pratique.
C'est des boules d'aspiration, en fait, au départ.
D'accord, ce sont des boules d'entraînement. Ça demande beaucoup de travaux, votre terrain de pétanque éphémère?
Alors non, c'est une solution qu'on a inventée pour la monter en kit en une trentaine de minutes. Donc on va monter un terrain de 7,20 m par 2, avec un stop boule, avec un revêtement synthétique, des bastins en bois et les boules souples. On met le cercle à l'extérieur du terrain et on peut jouer du coup une distance de 8 ou 9 mètres. Et en fait, il y a une adhérence qui se crée entre le revêtement synthétique et la boule en PVC qui fait que ça se freine et ça permet de jouer dans des distances convenables et en gardant cet esprit vraiment pétanque, évidemment en respectant les règles du jeu.
Qu'est-ce qu'ils vous disent les puristes ?
Alors les puristes, c'est ceux qu'on craignait le plus quand même.
Bah oui, vous avez des boules d'entraînement, votre terrain il a un revêtement spécial, ça doit râler un peu chez les boulistes habitués.
Bah alors le premier que j'avais croisé m'avait dit, vous c'est 10 ans de prison. Après finalement il m'a laissé lui expliquer un peu plus et c'est vrai que non, généralement ils sont très touchés. Pourquoi ? C'est que finalement c'est nous qui venons à eux et ils retrouvent, ils peuvent pratiquer leur passion dans des lieux dans lesquels ils s'y attendaient pas. En l'occurrence dans un bar, en intérieur, dans un centre commercial, sur un événement grand public. Ils n'auraient pas pu jouer à la pétanque en temps normal et ils sont plutôt contents au contraire, plutôt que faire 4 heures de shopping avec madame, de pouvoir jouer à la pétanque et l'attendre tranquillement. Et en général, c'est elle qui vient le déloger à la fin.
Alors, ben oui, c'est un peu comme le babysitting, hein, faut venir les chercher à la fin. Alors, je voyais aussi que vous disiez qu'il y avait quand même une rencontre intergénérationnelle, hein, autour de ces terrains de pétanque éphémère. Alors, vous avez cité quelques lieux, nous on parlait des bars, beaucoup, vous avez évoqué les centres commerciaux. Vous avez des projets insolites, des projets d'installation parfaitement inattendus pour des terrains de boules?
Ouais, alors ça fait partie. Alors on s'est installé il y a un an par le biais d'une franchise à Los Angeles et en Californie, et pour développer notre concept, on allait montrer vraiment et pousser loin l'idée du fait qu'on pouvait jouer partout, tout le temps, par tous les temps. Donc du coup, on a installé dans la même journée un terrain de pétanque et toute son installation avec sa scénographie. On était, je crois, à 6h40 du matin, on était dans le désert de Mojave. On est à 14h30 sur la route 66 chez Roy's et à 18h30 dans le désert de Joshua Tree. Et on a même monté un boulodrome d'ailleurs derrière le Hollywood Sign pour le lendemain, d'ailleurs le surlendemain, pour vraiment avec le boulodrome sur le dos en kit après 2 heures de marche, et on a monté ce terrain derrière le Hollywood Sign.
Oui, ça va. L'activité de pétanque est pas trop fatigante une fois qu'on a monté tout le kit. Simplement, je voyais aussi que quand on est un particulier pour un mariage, un événement X, on peut recourir à vos services. Ça coûte combien?
Alors, on a soit l'activité événementielle avec ces deux terrains, la scénographie et les animateurs qui peuvent intervenir sur des événements privés aussi, qui sont à partir de 1200 euros hors taxe la demi-journée. Et sur des événements privés, on peut aussi acheter un terrain qui s'appelle le demi, qui est un petit terrain à monter en kit, livré en kit plutôt, et à monter soi-même, qui est à 790 euros.
On a tous les prix, on a le devis.
Euros pour un mariage.
Alors, pardonnez-moi, ça a coupé sur la dernière phrase.
Pardon, j'ai dit oui, ce petit terrain, on peut aussi le louer juste le temps d'un mariage,
oui.
À 300 euros.
Eh bien, écoutez, je suis sûr que ça va donner des idées à certains qui nous écoutent. Merci Guillaume Lethier.
De rien, merci Mathieu.
Merci d'avoir pris quelques minutes pour expliquer votre démarche. On va voir ce qu'en disent les puristes sur le hashtag Europe 1 ce matin. Créateur du concept et directeur associé de la société d'événementiel Boule d'énergie. Merci Guillaume Lethier. Encore une fois, il est 6h23, vous êtes sur Europe 1.
Le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec Paul Lassen qui va revenir sur cette levée de bouclier des internautes après un article sexiste publié sur Twitter. Il est 6h25, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et à 6h25, Paul Lassen. Bonjour Paul.
Il est presque 6h26. Hein.
Oui, c'est vrai que le temps passe, si ça continue comme ça, il va être 6h27. Tous les matins, on vous raconte le monde qui change sur Europe 1. Malheureusement, certains stéréotypes restent bien ancrés, notamment en matière de sexisme. Et cette fois, c'est un article qui a beaucoup énervé les internautes.
Avec une question, porter du rouge à lèvres, est-ce un signe que l'on est sexuellement disponible? Un article posté par le site femina.fr sur Twitter et qui a beaucoup fait réagir. Pour Barbarelle, c'est peut-être tout simplement un signe qu'on a envie de porter du rouge à lèvres, ça paraît évident. Cette autre internaute revendique, elle, de pouvoir penser à son bien-être. Je porte du rouge à lèvres pour me sentir jolie et être bien dans ma peau, pas pour me faire culbuter par Étienne, Pierre ou Jean en bas de la rue. Rose, elle, en veut beaucoup à ceux qui ont publié cet article. Moi, je porte du eyeliner, c'est un signe que j'emmerde les journalistes sexistes. Un combat féminin, mais pas seulement. Beaucoup d'hommes se sont aussi emparés de cet article pour le critiquer. Mohamed, par exemple, c'est édifiant. Porter du rouge à lèvres indique que l'on est sexuellement disponible pour près d'un Français sur 10. Ok, donc pourquoi on en fait un article puisque l'écrasante majorité ne le pense pas? C'est ridicule.
C'était bien de le préciser, cela dit que c'est pas la majorité des Français non plus. Une image rétrograde véhiculée sur les réseaux sociaux et qui dessert la cause féministe, disent les internautes.
Oui, Jayz sur Twitter fait un rappel historique bienvenu pour contextualiser le port du rouge à lèvres. Tout un symbole. Au début du combat des féministes en Europe et en Amérique, le rouge à lèvres était une façon de montrer son engagement et son activisme, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il est devenu un signe patriotique et une déclaration de guerre contre le fascisme. Selon beaucoup de témoignages de femmes, épier chaque fait et geste, c'est devenu le quotidien sur les réseaux sociaux. Un sentiment ressenti par Hera, par exemple. Donc si je ne me maquille pas, je me laisse aller. Si je me maquille, je suis superficiel. Et si je mets du rouge à lèvres, j'ai envie de coucher. Sérieusement, lâchez-nous. Des stéréotypes. Beaucoup de stéréotypes qui amènent à des attitudes stigmatisantes. Si une femme porte des vêtements trop courts, c'est une pute. Et maintenant, le rouge à lèvres est un signe pour vouloir des relations sexuelles. Il faut arrêter de faire croire que ce sont les femmes le problème, écrit Emeline.
Et cette polémique, c'est la suite d'une longue série hein, ces dernières semaines qui ont émergé sur les réseaux sociaux.
Oui, il y a seulement quelques jours, quand on a appris que l'actrice Margot Robbie deviendrait le personnage principal des films Pirates des Caraïbes à la place de Johnny Depp, beaucoup de critiques. Je vous racontais également il y a quelques jours le harcèlement que vivaient plusieurs jeunes filles sur le réseau social TikTok. Il y a deux semaines, l'ancienne actrice porno américaine Mia Khalifa dénonçait sur son compte Twitch les agressions verbales sexistes dont elle était victime, à la suite desquelles elle était tombée en dépression. Et là, on ne parle que de ce qui a fait le pire sur les réseaux sociaux en l'espace de quelques jours. Le monde change, vous le dites tous les matins, Mathieu, mais pas tout le monde. Et sur certains points, on aimerait vraiment que ça change un peu plus vite.
Merci Paul Lassen, le pire et le meilleur des réseaux sociaux tous les matins sur Europe 1. Et allez, il y avait des remerciements de Julien tout à l'heure. On va profiter qu'il soit à l'antenne, j'allais le dire à la fin de l'émission. Merci Paul pour cette saison.
Merci
on,
Mathieu.
On l'entend depuis le confinement dans la matinale d'Europe 1, mais il a beaucoup joué Paul pour la réussite de cette matinale tout au long de l'année.
Merci Mathieu, merci pour tout.
Très formel, hein, ton merci.
Oui, oui.
Votre merci. Oh merci Paul. 6h29 sur Europe 1. Laurent Cabrol, la météo.
Oui, bien écoutez, ce sera une journée dans l'ensemble agréable pour tous ceux qui nous écoutent et qui se disent, bon, j'aime pas trop le soleil, j'aime pas trop la pluie, mais un petit peu des deux sera pas mal. Ben, il n'y a pas de pluie, non. Il y en a un petit peu, alors quand même, là, j'attire votre attention, chers amis, sur les Pyrénées-Orientales. Nous avons des pluies faibles vers Perpignan, vers Cabestany. Ce sont vraiment des toutes petites ondées qui viennent d'Espagne, parce qu'en Espagne, il y a de l'orage, à Gérone, à Barcelone, et tout ceci remonte un petit peu vers chez nous. Et nous avons donc, sur l'extrême sud de la France, un pôle de pluie qui va disparaître assez rapidement, rassurez-vous, si vous ne l'aimez pas. Pour le reste, c'est une alternance de nuages et d'éclaircies. Peut-être quelques orages menaçants sur les Alpes et sur les Pyrénées. Et puis, pour terminer quand même, des températures qui sont vraiment les températures idéales. Parce que deux saisons, 20 à Cognac, 20 pour autant, 40 aurait été mieux. 21 à Saint-Nazaire, 22 à Lille, 23 à Caen et Bordeaux, 24 à Toulouse et Nancy, 25 à Lyon et Paris, 26 à Valence, 29 à Marseille et 30 degrés à Orange.
Merci beaucoup mon cher Laurent Cabrol. Vous êtes sur Europe 1 avec François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
6h30, un nouveau journal.
Je comprends que la situation est difficile pour tout le monde, mais moi, les 835 euros, j'en ai besoin.
Ça n'a jamais été aussi compliqué de se faire rembourser les vacances annulées. Pourtant, le droit est du côté des consommateurs. Un service de police dissous en Seine-Saint-Denis. Décision rare après la mise en examen de 4 policiers dans plusieurs affaires. Et puis, Luis Fernandez qui veut renverser la table et le fonctionnement de la Fédération française de football. Il est déjà en campagne.
Question de droit et réponse de l'avocat d'Europe 1. Les salariés qui tomberaient malades du Covid pendant leur congé payé ont-ils droit à un report ? Roland Pérez, juste après le journal. 6h40, une unité de police de Seine-Saint-Denis dissoute, vous le disiez François. On va en parler avec Grégory Joron également, secrétaire général délégué d'unité SGP Police FO. Et puis, nous vous emmenons en Afrique du Sud, en Inde et en Pologne, dans la revue de presse internationale avant 7h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des dizaines de milliers de vols annulés depuis le mois de mars. Autant de trajets que comptaient faire des voyageurs d'affaires mais aussi des vacanciers. Ils se retrouvent aujourd'hui bien souvent démunis. On ne leur rembourse pas leurs billets en leur proposant à la place un avoir.
Cela a été autorisé par une ordonnance du gouvernement mais l'Union européenne a lancé hier une procédure d'infraction à l'encontre de 10 pays dont la France. Il faut dire, comme on va l'entendre avec le reportage d'Hélène Terzian, que les consommateurs se sentent vraiment lésés.
C'est une vraie bataille depuis 3 mois. Je suis pas sûre de récupérer mon argent un jour.
Pour son week-end à Londres avec sa sœur en avril dernier, Lisa avait tout prévu. L'Eurostar, l'hôtel et l'accès à un parc d'attractions. Le confinement a tout annulé et depuis, elle n'a reçu qu'un avoir valable 18 mois alors qu'elle tient à récupérer les 835 euros qu'elle a avancés.
J'essaie de les contacter sur tous les réseaux. Je fais des formulaires de contact tous les jours. Je n'ai toujours pas de remboursement. J'ai un avoir incomplet. Je comprends que la situation est difficile pour tout le monde, mais moi, les 835 euros, j'en ai besoin.
Des plaintes comme celle-ci affluent dans les associations de consommateurs. UFC Que Choisir se félicite de cet avertissement européen. Mais les voyagistes pointent du doigt le risque de faillite s'ils devaient rembourser, explique Richard Venopoulos, patron du réseau Tourcom.
Si jamais les pays devaient imposer aux entreprises du tourisme de rembourser immédiatement, ce serait le dépôt de bilan de quasiment 80% des entreprises du tourisme. Je ne parle pas que des agents de voyage, mais également des restaurants, des hôtels, etc.
En autorisant les agents à fournir des bons au lieu de rembourser. L'État français a contourné le droit européen et risque à terme une plainte devant la Cour de justice européenne.
Les vacances qui commencent ce soir pour tous les élèves dans l'éducation nationale, après une année scolaire comme aucune autre auparavant.
Du côté des parents, la pause des congés a été chamboulée. Elle aussi, du fait de la crise, la loi d'état d'urgence sanitaire a permis aux entreprises de modifier certains choix de leurs salariés. Olivier Samin.
À la Société Générale, les salariés sont encouragés à poser un maximum de leurs jours de congé et de leurs jours à RTT avant la fin de l'année. Après, ils seront perdus, car la possibilité qu'ils avaient jusque-là de placer les jours non pris sur un compte épargne-temps est supprimée. Pas de façon définitive, mais cette année en tout cas. C'est l'une des clauses de l'accord de sortie de crise Covid signé le 18 juin dernier par la direction et trois syndicats. Le message adressé par la direction de la banque aux salariés est clair. Ne gardez pas vos jours pour plus tard, prenez-en beaucoup tout de suite, autrement dit dès cet été, car on aura besoin de vous à la rentrée, au moment du redémarrage espéré de l'activité. Chez Renault, la logique est au contraire de réduire les vacances d'été. Les salariés de Sandouville, dont la reprise du travail avait été différée au mois de mai sur décision de justice, n'auront finalement que 2 semaines de vacances cet été pour rattraper une partie de la production perdue. Qu'en sera-t-il dans les autres usines françaises du groupe ? Réponse vers la mi-juillet, au vu, dit la direction, de l'évolution du marché automobile et des délais nécessaires pour les travaux de maintenance.
Le programme de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, il le donne dans une interview publiée ce matin dans la presse régionale. Le Ségur de la santé, qui va déboucher sur 15 à 20 milliards d'investissements pour l'hôpital, le chantier du grand âge, l'accompagnement de la jeunesse ainsi que l'égalité des chances. Et puis, la réouverture d'un dossier brûlant, le président le dit, il n'y aura pas d'abandon d'une réforme des retraites. La question du nombre d'années pendant lesquelles nous cotisons, dit-il, demeure posée.
Comité social et économique ce matin chez Air France pour préciser le plan de suppression de 7500 postes d'ici à la fin 2022.
Du côté d'Airbus, entre les emplois de production, les filiales et le siège à Toulouse, ce sont 3500 postes qui sont menacés par le plan d'adaptation détaillé hier par la direction. Une source d'inquiétude forcément pour les salariés qui ne s'étaient pas préparés à voir la firme vaciller en quelques mois seulement. Reportage de notre correspondant en Occitanie, Benjamin Péter.
On voyait notre avenir tracé, au final, pas du tout.
Maxime est entré il y a 7 ans au lycée Airbus, puis a été embauché en 2016 sur une chaîne de montage. Son avenir, il l'imagine difficilement ailleurs. Pourtant, il le voit depuis les annonces du plan de la direction. L'ambiance a changé quand il vient travailler.
On vient au travail, exactement pareil, mais bon, on repart pas avec le sourire. On n'arrive pas avec le sourire comme il y a 3 mois.
David, lui aussi, est un col bleu, un compagnon. Il n'a pas envie de quitter cette entreprise. Il n'imaginait pas que Toulouse, où 3500 postes sont menacés, paye un aussi lourd tribut.
Avec l'ensemble des collègues, on sait pas trop où ça va tomber, entre guillemets. Tout le monde se pose des questions. On sait que la crise a un gros impact sur l'aéronautique et le tourisme, mais de là à ce que Airbus, qui est le donneur d'or principal, licencie autant, on ne s'y attendait pas autant. Il y a 4 à 5 mois, on était en plein boom et tout s'est un petit peu arrêté d'un coup. Ouais.
Alors la direction assure que les différents dispositifs du gouvernement, et notamment le chômage partiel de longue durée ou sur la recherche et développement, devraient permettre de sauver 1500 emplois supplémentaires. Insuffisant pour les syndicats qui exigent qu'il n'y ait aucun départ contraint. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
On vous parlait ces derniers jours de ces enquêtes sur la CSI 93, une unité de police de Seine-Saint-Denis dont plusieurs agents auraient franchi la ligne rouge.
4 d'entre eux sont mis en examen pour faux et usage de faux, arrestation arbitraire, 2 agents pour violence volontaire. Ils sont suspendus, sans salaire. Et le préfet de police de Paris l'a confirmé hier, cette compagnie de sécurisation et d'intervention sera dissoute, Marion Dubreuil.
D'ici 15 jours, l'ensemble des policiers en tenue de la CSI 93 devra être réaffecté dans les différents commissariats de la Seine-Saint-Denis. Cela représente 70 agents, tout de même la moitié de la compagnie. Les autres fonctionnaires, eux, rejoindront la CSI de Paris. Les locaux du service à Aulnay-sous-Bois devront fermer avant la fin de l'année. Inadmissible pour un cadre du 93 qui parle d'une injustice incroyable. Pour quelques brebis galeuses, on sacrifie une majorité de bons policiers. Pour la préfecture de police de Paris, c'est une affaire qu'on ne pouvait pas laisser passer et qui va même entraîner une réorganisation des 4 CSI de la région parisienne. 550 policiers concernés pour aboutir sans doute à 3 compagnies plus centralisées. Pour un commissaire de la Seine-Saint-Denis, il faut préciser les missions de ces compagnies, davantage en lien avec les autorités locales. Le reproche récurrent qu'on pouvait faire aux policiers de la CSI, dit-il, c'est qu'ils étaient trop indépendants quand ils intervenaient dans les quartiers, un peu voyous aussi. Cette refonte sera l'occasion de mieux les encadrer.
Marion. Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Qui prendra la suite de Noël Le Graët à la tête du foot français? Un homme cherche à monter un projet et à trouver un candidat. Luis Fernandez est en campagne. L'ancien entraîneur du PSG espère constituer une liste pour les prochaines élections de la Fédération française.
Il visite des clubs amateurs pour prendre le pouls sur le terrain. Premier déplacement, c'était à Torcy, en Seine-et-Marne, Cyril de la Morinerie.
Luis Fernandez a débuté avec sérieux sa tournée des clubs. Certes, le célèbre entraîneur tutoie tout le monde, mais il se montre très attentif. Luis Fernandez a observé l'entraînement, discuté avec les dirigeants en toute simplicité, confie le directeur des équipes des jeunes de ce club de Seine-et-Marne, Jean-Fabrice Nyangui.
C'était pas une démarche officielle en tant que candidat de la FFF. Hein. Il est venu, il a fait une visite de courtoisie, il a posé des questions sur le matériel qu'on a à disposition. Sur les manques que peut avoir le club. En fait, il voulait voir comment ça se passait de l'intérieur. Quoi.
Luis Fernandez voulait se faire une opinion sur le terrain et il a été servi, comme il l'a expliqué sur Europe 1.
Vous rencontrez une dame à Torcy qui s'occupe directement, elle seule, de l'administratif, de tous les licenciés. Ça coûte aussi de l'argent. Il y en a certains qui n'ont pas les moyens. Hein. Vous croyez que dans le football amateur, tout le monde a les poches pleines pour aller s'acheter des survêtements, des chaussures, des licences.
Suite de la tournée demain, Luis Fernandez ira à Poissy. Le vainqueur de l'Euro 84 espère surtout convaincre d'anciens joueurs du bien fondé de sa démarche pour pouvoir peser lors des prochaines élections prévues en mars 2021.
Cyril de la Morinerie pour Europe 1, ça vous intéresse le poste de patron de la FFF, Mathieu?
Ah, il faut que je réfléchisse.
Vous êtes bientôt en vacances.
Je viens de me réengager pour l'année prochaine.
Temps,
ici,
donc au moins cet été, vous pouvez travailler le dossier.
Non, je peux pas. Non, je reste.
Vous savez, vous avez piscine.
Julien, je reste. Question pour la France. Je suis la France. C'est Samuel, merci beaucoup. Vous aussi, je vous garde, François. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que c'est Samuel Etienne maintenant. Un peu vieille école. Un peu conservateur. Bah, peut-être. Oui. François Geffrier, c'était le journal de 6h30. Vous êtes sur Europe 1, il est 6h39.
Et vos questions de droit trouvent leur réponse avec notre expert juridique, l'avocat d'Europe 1, Roland Pérez.
Bonjour Roland.
Salut Mathieu, bonjour à tous.
Question de droit ce matin, les salariés malades du Covid pendant leur congé payé, ce qui a dû nécessairement arriver, peuvent-ils demander à leurs employeurs un report des congés dont ils n'ont pas pu pleinement profiter?
Alors, si les conventions collectives ou accords d'entreprise le prévoient, le report des jours de congé restants s'impose. Et si ce n'est pas le cas, l'employeur n'est pas tenu à une telle obligation. Et la Cour de cassation, saisie de cette question il y a déjà fort longtemps, a expressément indiqué que le salarié qui tombe malade pendant ses congés ne peut pas exiger de les prendre ultérieurement du seul fait qu'il n'a pu réellement en bénéficier en raison de son arrêt de travail. Mais la réponse que je viens de vous donner, Mathieu, a évolué avec la position de la Cour de justice de l'Union européenne, avec laquelle il faut toujours compter, et qui a clairement dit tout le contraire, puisqu'elle a jugé que le report s'imposait en pareille situation. La motivation d'une telle décision est plutôt empreinte de bon sens, puisqu'elle considère que la finalité d'un congé est de permettre de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs, ce qui n'est évidemment pas le cas lorsqu'on tombe malade. Et donc, vous l'avez compris, cette position prévaut désormais sur celle de la Cour de cassation.
Alors, j'espère, Roland, ne pas vous poser une colle, hein, mais que se passe-t-il si le salarié tombe malade la veille de son départ en congé? Est-ce qu'il y a un report possible de ses vacances, là, ou pas?
Bon, c'est pas cool, hein, pour la dernière question de la saison.
Mais jusqu'ici, je vais bien. Hein. Donnez-moi encore 2 heures pour tomber malade, mais jusqu'ici, je vais bien.
Alors oui, si le salarié en ce cas a droit au report de ses congés qui pourront être refixés après la date de reprise, et c'est une fois de plus la Cour de cassation qui l'a dit dans un arrêt qui a fait jurisprudence en 2011, les congés qui n'ont pas pu être pris dans un tel cas ne sont pas perdus, et sur le point de savoir si le juge européen est d'accord avec cette règle, il l'est, mais avec une nuance, le report doit toutefois être limité dans le temps.
Merci beaucoup Roland Pérez, l'avocat d'Europe 1 qui vous éclaire le matin, il est 6h41.
Europe 1, la matinale d'Europe 1 avec vous Mathieu Béliard, la suite.
Quelques rendez-vous à noter, on va beaucoup revenir ce matin sur l'interview d'Emmanuel Macron dans la presse régionale, 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Christian Jacob à 7h40, la réforme des retraites, le Ségur, la réforme de l'assurance chômage avec Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière. Mais tout de suite, autre dossier, cette compagnie de police, la compagnie de sécurité du 93, dissous. 4 policiers sont mis en examen. Pourquoi la compagnie entière est-elle dissoute? Certains syndicats sont en colère, notamment Unité SGP Police FO. Grégory Joron, qui en est le secrétaire général, est mon invité dans un instant. A tout de suite.
Il est 6h43, les acteurs de l'actualité en direct sur Europe 1. Votre invité Mathieu Béliard, Grégory Joron, secrétaire général délégué Unité SGP Police FO.
Bonjour Grégory Joron.
Bonjour.
La CSI 93, Quatre policiers de la compagnie de sécurisation d'intervention de Seine-Saint-Denis mis en examen pour faux, usage de faux en écriture, arrestation arbitraire, violence volontaire, transport et détention non autorisée de stupéfiants. Cette affaire fait polémique depuis le début de la semaine. La préfecture de police de Paris a décidé de dissoudre cette compagnie, la CSI 93. Réaction rapide et ferme, mais chez vous, chez Unité SGP Police Info, on est fermement opposé à cette décision. Pourquoi ?
Bah vous l'avez dit, réaction rapide surtout, je trouve. Hein, ferme, c'est évident, mais surtout rapide, beaucoup trop rapide. Qu'est-ce qu'on fait des 140 autres collègues qui font leur boulot correctement pour un service qui a toute son utilité dans un département comme le 93, qui a fait ses preuves, hein, et qui est régulièrement loué, hein, justement pour ses affaires et ses résultats.
En juin 2019, l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, reçoit deux plaintes qui visent des policiers, deux jeunes hommes qui accusent les agents d'avoir fait croire que l'un d'entre eux détenait un sachet de cannabis. En réalité, ce serait des policiers qui auraient jeté un sac contenant de l'herbe au pied du jeune homme. Bref, la scène filmée, le téléphone détruit, les deux jeunes se plaignent, ce qui aboutit à ce que l'on connaît aujourd'hui. Pour vous, cette affaire aurait dû être circonscrite à ces hommes remis en question et non pas à la compagnie.
Mais c'est assez drôle parce que le préfet de police, enfin drôle, c'est pas le bon terme, mais le préfet de police le 2 juin, après les propos du ministre qui ont créé un certain trouble dans la police aussi et beaucoup de colère, a écrit à l'ensemble de ses agents « Ne doutez pas, car le doute fragilise et rend la mission plus difficile. Ne doutez pas et ne cessez jamais d'être ce que vous êtes, à savoir bon, des adversaires résolus de la délinquance, des sauveurs de victimes. Moi, j'ai envie de lui dire aujourd'hui au préfet de police, avec ce que vous faites, les 140 fonctionnaires qui, eux, font leur travail quotidiennement, ils vont douter. Et vous allez fabriquer des sacs de sable. Donc, évidemment, on fait de 4 fonctionnaires, on prend une décision à l'ensemble d'un service.
Oui, mais Grégory Joron, de 4 fonctionnaires, ça c'est un fait. Il y en a 4 qui sont mis en examen et, rappelons-le au passage, ils sont présumés innocents.
Hein. C'est très important.
C'est très important, non mais bien sûr. Sauf que, pourquoi est-ce qu'on en parle et pourquoi est-ce qu'il y a cette dissolution de la CSI 93? C'est qu'il y a plusieurs autres enquêtes qui sont en cours. 10% des fonctionnaires de cette compagnie seraient concernés.
Oui, 10%, pareil, il en reste encore 90, quoi. On va déplacer l'ensemble d'un service, on va dissoudre potentiellement la CSI 75. Je pense que ses collègues, pour l'instant, ils sont pas dans des affaires. On va désaxer la position de la CSI 93 sur un département.
Elle est dissoute, donc elle n'existera plus. Mais qu'on comprenne bien, les autres fonctionnaires, ils auront du boulot. Hein, et certains seront réaffectés dans les différents commissariats de Seine-Saint-Denis, d'autres à Paris. Vous dites que c'est une injustice pour ces autres policiers qui sont dispatchés, si j'ose l'expression. Sauf qu'on a... pour vous, il n'y a pas de souci avec la compagnie. Il n'y a pas eu de signaux ou de volonté peut-être de cacher des affaires.
De volonté de cacher des affaires, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas d'éléments pour pouvoir affirmer ça. La difficulté qu'on a, c'est qu'on est aussi dans un système qui est assez hypocrite. Je rappelle quand même qu'on a une police qui fonctionne malheureusement encore avec une politique du chiffre, qu'on le veuille ou non. Ce sont des indicateurs, des outils managériaux qui forcément teintent un peu la manière dont les policiers travaillent aujourd'hui au quotidien, mais que ce soit dans des compagnies comme la CSI.
Vous pouvez nous dire en quoi, Grégory Joron, pourquoi est-ce que la politique du chiffre dont vous parlez ou les objectifs managériaux provoquent ce dont on est en train de parler du côté de ces agents mis en examen ?
Alors, c'est un facteur qui peut le provoquer. C'est-à-dire qu'on nous, les policiers quand ils vont sur le terrain aujourd'hui, ils sont. Moi, j'ai connu une époque où quand on rentrait, on nous demandait pas ce qu'on avait fait. Alors, je dis pas qu'on faisait rien. Mais en tout cas, on avait moins de pression hiérarchique, mais parce que le système n'était pas le même, et on n'avait pas à remplir des tonnes de papiers pour expliquer qu'on avait contrôlé tant de personnes, passé au fichier tant de personnes, voilà, etc., etc.
Je cherche pas à accabler les fonctionnaires de police de cette compagnie, mais je reprends par exemple les propos d'un de vos confrères, David Lebars, qui est à la tête du syndicat des commissaires de la police nationale. Il trouve qu'on est allé un peu fort, comme vous, hein, sur cette décision. Cela dit, il reconnaît un manque de réaction à des signaux faibles. La hiérarchie dont vous parlez, elle n'a pas failli, là, dans la détection, on va dire, de pratiques de ripoux, hein, pour dire les mots comme ils sont.
Moi, je représente les gardiens de la paix. Je représente pas la hiérarchie. Il faudrait poser la question à leur syndicat. Mais dans l'absolu, on sait très bien que dans des services ou et dans des départements particulièrement 93 où de toute façon l'action de police est quand même compliquée quelle qu'elle soit. On sait très bien qu'à certains moments on est borderline. C'est une évidence si on veut que ça marche de temps en temps. Alors je dis pas qu'on piétine l'ensemble du cadre républicain.
Non mais vous n'êtes pas quand vous dites on est borderline, ça je pense que n'importe lequel de nos auditeurs peut le comprendre la difficulté de votre travail sur le terrain, mais pas sur les faits qu'on vient de décrire sur cette affaire là.
Ouais, enfin attention, les faits ce sont des intitulés du code pénal. Après faut voir ce qu'il y a derrière aussi. Et la manière dont ça s'est passé.
Mais il faudra le prouver, ils sont présumés innocents, je peux le répéter. Voilà, mais à des policiers qui jettent un sachet d'herbe au pied de deux jeunes hommes, j'ai pas leur âge, et pour prétendre que ce sont des dealers, pardonnez-moi, et qui ensuite détruisent des preuves quand la scène a été filmée. Il n'y a pas de sujet là-dessus.
Non, il n'y a pas de sujet là-dessus, évidemment, mais il y a un ensemble d'autres faits, et vous me parlez de potentiellement 10% des agents, il faudra voir exactement ce que c'est si ces affaires-là sortent. Et ce qui me gêne, encore une fois, c'est si on revient à la base de tout ça, c'est que on sait pas, les collègues sont quand même présumés innocents au moins ces quatre-là, pour les 10, 15, je sais pas combien d'autres, on sait pas ce qui va se passer, mais on prend une décision de dissoudre tout le service, et ça c'est pas lisible qu'on le veuille ou non, ça n'excuse en rien, faute s'il y a, il y aura sanction, encore une fois, il n'y a pas de sujet avec ça, pour n'importe quel syndicat et n'importe quel policier d'ailleurs, on connaît un peu la règle du jeu, mais pour autant, prendre une décision aussi ferme à l'endroit d'un service complet et de plus de 100 autres collègues qui eux n'ont rien demandé, clairement je pense que c'est pas une bonne méthode de management en ce moment pour la police nationale. Ça me fait juste penser à la clé d'étranglement du ministre, le parallèle et à mon avis est parfait.
C'est de ce niveau-là pour vous ?
Oui, c'est de ce niveau-là à l'échelle d'un service, c'est-à-dire que c'est la même injustice. C'est exact. Et je vous parle pas des autres services, encore une fois, la CSI 75, parce que finalement, c'est pas la CSI 93 dans le détail qui va être dissoute. C'est la CSI 75 qui va être dispatchée dans les trois autres CSI des départements 92, 93, 94. Bon, ça, c'est technique, mais en plus, on fonctionne à l'envers. Donc, la CSI 93, vous avez des agents qui sont aujourd'hui très marqués parce qu'on va les mettre de l'autre côté du département et on désengage en plus encore d'efforts sur le 93, alors que c'est quand même un département qui mérite une attention particulière en termes de sécurité. Et la CSI 75 qui a rien demandé, eux, on va les dispatcher.
Merci Grégory Joron, secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police FO. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur Europe 1. Il est 6h51.
Europe 1. Un coup de fil passé aux correspondants d'Europe 1 présents sur tous les continents. Dans un instant, la revue de presse internationale. Et nous serons en Inde, en Afrique du Sud et en Pologne. À tout de suite. La matinale d'Europe 1 avec Mathieu Béliard à 6h52, la revue de presse internationale.
Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Vous le savez, c'est une fenêtre qu'on ouvre sur le monde, sur les 5 continents, avec Com Bastin en Inde pour Europe 1. Bonjour Com.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle en Inde ?
Ici, on commente la décision prise par le gouvernement de bannir 59 applications chinoises. Parmi celles-ci, le réseau social vidéo TikTok, dont les Indiens sont les plus grands fans du monde. Le gouvernement ne s'en cache pas, il s'agit d'une revanche digitale après les affrontements meurtriers avec la Chine à la frontière de l'Himalaya, rapporte Hindustan Times. La classe politique soutient la mesure, l'opposition demande même de bannir encore plus d'applications, souligne India Today. Mais l'Inde peut-elle vraiment se mesurer à Pékin ? Comme le rappelle Indian Express, au moins 16 des 29 start-up les plus florissantes en Inde ont des capitaux chinois, sans parler des risques de cyberattaque. En attendant, les USA ont indiqué hier par la voix du secrétaire d'État Mike Pompeo qu'il soutenait l'Inde dans ce boycott numérique. La tension monte donc encore d'un cran.
Merci Com Bastin. Marina Burgeon est en Afrique du Sud pour Europe 1. Bonjour Marina.
Bonjour Mathieu.
À la une en Afrique du Sud.
Les chauffeurs de taxi collectifs défient le gouvernement. À cause du Covid, leurs minibus ne peuvent pas être remplis à plus de 70%, mais cette semaine, ils ont décidé de faire le plein de passagers pour forcer le gouvernement à augmenter les aides, 250 euros par taxi, visant à compenser leur manque à gagner. Selon le Times, 15 millions de Sud-Africains vont au travail en taxi collectif, des taxis devenus de super propagateurs du virus, alors que le Covid est en train d'exploser dans le pays avec 150 000 infections. Sur Twitter, les usagers demandent au gouvernement d'intervenir. L'Afrique du Sud n'est pas une république bananière, dit le Sunday Times. Mais selon le Business Day, si le gouvernement augmente les aides, il faut imposer des règles aux taxis qui opèrent au noir et ne respectent aucune loi sociale.
Marina Burgeon en Afrique du Sud. Fanny Boucaud en Pologne pour Europe 1. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle en Pologne ?
du débat télévisé entre les deux candidats à la présidentielle et personne ne sait s'il aura vraiment lieu. Le président sortant ultra-conservateur Andrzej Duda et Rafał Trzaskowski, le maire libéral de Varsovie, pouvaient se retrouver dès hier soir devant les caméras de la télévision privée TVN et en simultané sur les sites Onet et WP. Mais le président actuel a refusé de venir. TVN est perçu comme un média en faveur de l'opposition, Onet est plutôt neutre. Autre débat, lundi prochain, mais sur TVP, la télévision publique, aux mains du pouvoir. Évidemment, Duda a accepté, mais aucune réponse de son opposant pour l'instant. Le débat du premier tour sur la TVP a soulevé de nombreuses critiques. Beaucoup de questions posées aux 11 candidats étaient tirées directement du site de campagne de l'actuel président.
Merci beaucoup Fanny Boucaud. Nous étions en Pologne, en Afrique du Sud et en Inde. On a voyagé. C'était la revue de presse internationale et c'est tous les matins à 7h10 sur Europe 1.
Europe 1. Un nouveau journal à 7h sur Europe 1 et la météo avec Laurent Cabrol. A tout de suite. Europe 6h56, vous écoutez Mathieu Béliard.
Vendredi 3 juillet, bon réveil à toutes et à tous avec la matinale d'Europe 1. Ensemble, on écoute le monde changer, le monde d'après, le chemin à dessiner, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron. Il n'y aura pas d'abandon d'une réforme des retraites. Les mots du président de la République dans cette interview accordée à la presse régionale ce matin, nous y revenons longuement. Aujourd'hui, le débat des retraites relancé, nous vous l'annoncions il y a quelques semaines dans la voix de Nicolas Bétou. Nicolas Barré sur le sujet dans le journal de 7h, avec ou sans Édouard Philippe, les réformes continueront. Sur la réforme des retraites précisément, à 7h40 ce matin, Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, relancer les négociations et puis les plans sociaux actuels et à venir, le climat social à la rentrée. Rentrée difficile en vue, détaillera également Michaël Darmon, ça c'est dans le journal de 7h30. Enfin 8h15, notez-le bien, Sonia Mabrouk reçoit Christian Jacob, le président des Républicains. Il est grand temps de parler de vacances. Dans la matinale, nous vous emmenons au Sable d'Olonne ce matin, nous vous emmenons à la montagne, nous vous emmenons à la campagne, le tourisme dans toutes nos éditions ce matin. Et puis les enfants, certains n'ont repris l'école qu'il y a 2 semaines et ça s'arrête cet après-midi. Comment rattraper ? Faut-il rattraper d'ailleurs pendant l'été ? La question se pose. Et puis, à quel rythme ? Dites-nous ce que vous prévoyez en famille comme travail scolaire. J'ai bien dit ce que vous avez prévu, parce qu'on sait bien que nombre de cahiers de vacances sont achetés, entamés, jamais achevés. À 8h30, Philippe Berrieux, chercheur en pédagogie, spécialiste de l'éducation. Comment combler les retards provoqués par le Covid ? Parce que c'est ça l'enjeu, c'est ça la préoccupation qu'ont certains parents en ce moment. Vos témoignages, vos questions aussi, peut-être au 39-21, n'hésitez pas. Roland Garros pourra bien accueillir du public fin septembre avec Europe 1, je vous le rappelle, même avec un calendrier décalé, nous sommes radio partenaire. 50 à 60% des spectateurs dans le journal de 8h, nous appelons Jean-François Villotte, directeur général de la Fédération Française de Tennis. Et puis notez qu'à 7h50, ça va vous plaire, Omblin, ce sera jazz. But it's holding on, and it's holding strong, even though I tried to make it, played the part, but I can't fake it, it keeps holding on. Périscope, votre rendez-vous culture. Grégory Porter, un nouveau disque du chanteur américain doit sortir en août. Grégory Porter dans Périscope avec Jean-Philippe Ballas à 7h50. Il est 6h59 sur Europe 1. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
Oui, la météo qui s'annonce très belle la semaine prochaine, mais il va falloir patienter pour certains d'entre nous. Alors, la patience pour tous ceux qui vivent près des côtes de la Manche et de la mer du Nord, puisque à la fois demain et après-demain, nous aurons un temps, souvent humide, avec beaucoup de vent, c'est pas mal pour le sky surf, tout ça, mais soyez prudents, parce que des vents à 60-70 km/h sur l'ensemble des côtes de la Manche et de la mer du Nord, et puis un peu de pluie quand même, dans toutes ces régions. Et ensuite, ce sera un dégradé. Plus nous irons vers le sud, je parle de samedi dimanche, plus nous aurons de soleil. Aujourd'hui, c'est pour tout le monde, nuages éclaircis en alternance. Donc, pas de jaloux, une petite poche de pluie sur les Pyrénées, mais elle va vite partir. Elle vient d'Espagne avec sa petite valise en carton et elle va repartir tout de suite. En ce qui concerne les autres régions, ce sera alternance de nuages éclaircis avec des températures de 20 à 24 sur la moitié nord et même 25 à Paris. Et entre 26 et 30-31 sur les régions de la moitié sud. Donc il fait bon, il va faire bon, c'est une journée qu'il faut savourer. Et demain, après-demain, sur la moitié sud, ce sera génial. Sur la moitié nord, c'est ce que je disais, il y aura quelques petites pluies. Et la semaine prochaine, ça sera waouh !
Waouh ! Merci beaucoup, Traduisez. Laurent Cabrol. Bon, on n'a pas besoin, je pense que tout le monde a compris. La semaine prochaine, c'est waouh, nous dit Laurent Cabrol sur Europe 1 ce matin. Très bon réveil à toutes et à tous, nous sommes avec Hélène Zélani. Bonjour Hélène.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et on écoute le monde changer.